Il est 7h06 minutes. Bonjour, Luc.
Bon vendredi, Louis.
Bon, alors, tu veux me parler des actes islamophobes, oui. Réaction appropriée du bureau de François Legault, mais oui. Silence questionnable des élus caquistes?
Ben oui, parce que, bon, il y a cet article-là dans la presse ce matin qui fait référence à ces deux gestes épouvantables qui ont été posés au Québec dans les derniers jours. Un à l'endroit d'un chauffeur de taxi de la région de Québec qui est d'origine algérienne, et l'autre à l'endroit d'une mère et de son enfant de 3 ans à Montréal. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo passer,
ben oui.
Mais c'est assez épouvantable, la violence des propos, et qu'on puisse justement s'adresser comme ça à des gens, puis particulièrement à un enfant de 3 ans, là, c'est assez troublant.
Un gars qui est sur le trottoir puis qui se met à crier après une dame qui visiblement est avec son enfant. Dans une poussette, probablement, je ne sais trop. Là, mais
il s'adresse directement à l'enfant de 3 ans.
Ben oui, écoute, tu parles d'un idiot.
Il n'y a pas de mots pour décrire ça.
Ouais.
Alors, évidemment, ça fait réagir la classe politique. Puis c'est ce qu'on voit, oui, dans cet article-là de la presse ce matin. Et oui, il y a une réaction appropriée, je te dirais, du bureau de François Legault, de son porte-parole. Il dénonce fermement ces actes terribles. Mm-hmm. Il parle, évidemment, que la haine, le racisme, l'intolérance n'ont pas leur place dans notre société. Puis il dit que le gouvernement va continuer de tout faire pour lutter contre les crimes haineux. Alors oui, c'est une réaction appropriée, mais je pense que ça aurait dû venir du premier ministre lui-même ou d'un membre du Conseil des ministres. Et je veux pas, là, vraiment pas dénigrer le travail des porte-parole, des attachés de presse. Tu sais que j'ai fait ça, moi, avant d'être élu, là. Alors, j'ai le plus grand respect pour ce qu'ils font, mais faut quand même reconnaître que ça n'a pas la même portée non plus, là, lorsque c'est un porte-parole qui s'adresse à la population plutôt qu'un élu. Là.
Que M. Legault était peut-être en vacances, remarque, là, par les temps
qu'il faut. Il est en vacances, mais il tweet sur autre chose, hein, par exemple. Et il réagit à d'autres événements de l'actualité, et avec raison. On l'a vu dans le cas du décès de l'agent Bira. Ouais. On l'a vu hier dans le cas du décès du PDG de Savoura. François Legault a tweeté, puis je pense que c'est approprié de le faire, mais ça aurait été approprié aussi de le faire dans cette situation-là, étant donné la teneur, justement, de l'événement. Puis je pense que c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de dénoncer les débordements, de s'assurer qu'on continue de bien vivre ensemble au Québec. Alors, le silence, je le trouve un petit peu questionnable. Et puis, on peut se demander justement pourquoi il n'y a pas de commentaires qui sont véhiculés par les ministres.
Je vais me faire l'avocat du diable, Luc, OK? Parce que c'est des événements qui sont malheureux, tristes, regrettables. Puis, écoute, je les dénonce, puis tout. Mais en même temps, ce serait de leur donner beaucoup d'importance si le premier ministre sortait à chaque fois qu'il y a un idiot qui s'en prend à quelqu'un. Tu sais, il faut aussi le prendre dans ce sens-là. Là. C'est de ne pas mettre le spotlight, le projecteur sur une situation, sur un imbécile qui commet des conneries. Là.
Mais en même temps, on en parle, oui, au Québec, et puis on ne parle pas de faire une conférence de presse non plus, là, mais tout simplement de le dénoncer, comme le fait d'ailleurs Pascal Bérubé dans l'article de ce matin. Là, puis je pense que le gouvernement n'a pas à se sentir coupable non plus, parce qu'évidemment, dans ces situations-là, il y en a qui essaient de faire des rapprochements avec la loi sur la laïcité et tout le débat qu'on a eu sur le projet de loi 21, mais il n'y a pas de lien de cause à effet, là. Honnêtement, là, je pense qu'il faut le dire, ça, et le répéter. Il y en a eu des événements comme ceux-là, très malheureux, dans l'histoire du Québec, puis il n'y avait pas la loi 21, donc on a juste à penser à la tuerie à la mosquée de Québec, par exemple. Là. Alors, il n'y a pas de lien à faire, le gouvernement n'a pas à se sentir coupable dans cette situation-là. Je pense que c'est juste de répéter que ces gestes-là sont pas acceptables au Québec. Puis c'est pas de faire la morale aux Québécois non plus que de dire ça, parce que moi, je peux te dire que je suis profondément convaincu qu'on peut pas qualifier le Québec de société raciste ou islamophobe. Mais il y a des gens, comme dans toutes les sociétés, hein, partout à travers le monde, qui ont des comportements racistes. Et lorsque ça arrive, je pense que c'est le devoir de ceux qui nous gouvernent de les dénoncer, comme l'ont fait d'autres élus de d'autres partis politiques ce matin dans la presse. Alors, on verra si les élus caquistes vont finir par s'exprimer sur ce sujet-là.
Bon, caricature de côté dans le soleil ce matin. Moi, je la trouve quand même bonne, là.
Oui, tu vois, c'est drôle.
Oui, tu vois Maxime Bernier avec un gilet et c'est écrit « Make Maxime Bernier great again ».
Oui.
Référence, évidemment, à Donald Trump.
Ben oui, mais tu sais, c'est parce que ça devient un petit peu facile là, de le définir de cette manière-là quand tu regardes ses dernières sorties, particulièrement la dernière lorsqu'il a parlé d'immigration. Tu sais, dans le même événement, lorsque tu parles de construire une clôture sur une partie de la frontière, puis que tu t'en prends aux médias,
exact.
C'est sûr que ça fait penser à quelqu'un. Non seulement Maxime Bernier se fait définir, mais moi, je te dirais qu'il se définit lui-même, il définit son propre personnage, puis on pourrait peut-être dire son nouveau personnage, parce qu'il y a quand même une évolution de son côté, hein, parce que maintenant, bon, il veut être premier ministre du Canada, très à droite. Il faut quand même rappeler que le même Maxime Bernier a déjà été conseiller politique de Bernard Landry, hein, qui était progressiste, souverainiste. Alors, c'est à la fin des années 90, les gens peuvent évoluer, mais quand même, toute une évolution dans son cas. Mais il veut se positionner, Maxime Bernier, dans le cadre de cette campagne-là, comme étant le candidat qui en a assez de l'establishment, qui va être là pour le vrai monde. On le voit dans le débat sur la gestion de l'offre. Il dit qu'il veut prendre le parti des consommateurs, pas de l'industrie. Il se présente aussi comme étant le candidat de la droite, pas seulement économique, mais bon.
Ouais.
De la droite morale, dans une certaine mesure, lorsqu'il parle de réouvrir le débat sur l'avortement, de la droite identitaire aussi. Puis, il veut se présenter aussi, je trouve, comme étant le candidat qui n'est pas nécessairement politically correct. Il veut être celui qui est vu comme étant, qui parle vrai, qui aborde les sujets sans tabou. Pour lui, bon, il n'y en a pas de tabou, on peut aborder tous les sujets. Alors, il vise un marché politique qui est assez précis, qui existe au Canada. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, mais il est quand même assez limité.
Ouais, alors, mais c'est du populisme, là.
Ben oui.
Il y a un mot pour ça, là.
Ben, il y a du populisme, mais il y a des gens qui, je veux dire, qui vont être réceptifs aussi à ces messages-là. Et je pense que ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et puis, ce qu'on voit, par exemple, c'est que le marché, il existe, mais il est limité. Alors, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement être premier ministre du Canada, là. Il cible cet électorat-là pour se positionner sur l'échiquier politique, peut-être pour construire pour l'avenir, là, sur cette base-là.
Ouais.
Mais je pense qu'aussi, Louis, l'objectif non avoué de Maxime Bernier, là, c'est un petit peu de se venger peut-être de son ancienne gang, hein, de son ancien parti, des conservateurs, parce qu'il vise clairement les gens qui sont déçus de certaines prises de position d'Andrew Scheer. Et puis, on peut pas prétendre que Maxime Bernier, lui, est le deuxième choix des électeurs plus progressistes. Alors, il va vraiment être dans le buffet des conservateurs. Et puis, on va voir sa performance. Et puis, tu sais, dans un comté serré, s'il va chercher un 8-9%, ben, il pourrait faire passer les libéraux. Alors, on va devoir suivre ses performances en campagne électorale, mais son plus grand défi pour lui, justement, avec ses prises de position, sera de conserver son siège au Québec.
Ouais.
On verra si sa notoriété dans Beauce fera la différence.
Et ben pertinence et efficacité de Pascal Bérubé.
Oui, parce que même si on est en été, tu sais, les chefs sont actifs. Je te l'ai dit tantôt, il était encore dans le journal ce matin. Et moi, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé, là, j'ai toujours été bien impressionné par lui, là, par son travail de parlementaire, très habile en chambre, il était percutant. Puis dans son rôle de chef intérimaire du PQ, il continue de m'impressionner. Il fait preuve d'une grande résilience, hein, tout d'abord, parce qu'il n'y a pas eu un hiver facile. Ils ont eu des mauvais sondages, il y a eu la défection de Catherine Fournier, puis il y a plusieurs militants également et qui passent à la CAQ, entre autres. Il a perdu son statut de deuxième opposition à l'Assemblée nationale pour donner la troisième opposition. Mais malgré tout ça, il demeure présent sur la scène publique. On l'a vu ce matin, mais on l'a vu à de nombreuses reprises cet été. Il est dans les grands pôles médiatiques, même si lui est à Matane. C'est pas nécessairement évident pour lui d'être présent partout, mais il réussit à faire ça. Puis à travers ça, ben, il défend sa région. Il a parlé beaucoup du dossier du traversier, réclame un ministre propre à sa région, parce que Marie-Ève Proulx, tu sais qu'elle a la responsabilité de trois régions. Alors, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine veulent leur propre région. Puis il a remporté, je pense aussi, une victoire importante cet été. On n'a pas eu la chance d'en parler ensemble. Mais il a obtenu cette séance de travail des membres de la Commission des finances publiques.
Ouais.
Tu sais, dans tout ce débat-là sur Desjardins et la fuite des données, alors, il a obtenu cette séance de travail-là pour que les membres de la Commission se penchent sur la pertinence d'entendre les principaux intervenants. Alors, même en été, il demeure pertinent, actif. Alors, je pense que ça mérite d'être souligné. Puis, on verra si sa réflexion évoluera quant à son avenir politique, mais je pense qu'il y a bien du monde au PQ qui aimerait ça qu'il soit chef permanent.
Mais là, il s'est mis dans une position où il peut pas le faire. Merci, Luc.
Bye-bye.
Salut.